Tout d'abord, merci à l'Espace MADES France de m'accueillir et puis à Monsieur Lafontaine de m'avoir proposé de faire cette conférence, d'avoir pensé à moi, de m'avoir fait confiance. Je dois avouer sur un thème qui au début m'a fait un petit peu peur parce que les transports, les réseaux routiers, ce n'est pas vraiment mon domaine à la base. Et puis il se trouve qu'avec l'IREM de Poitiers, on a mené un travail, donc notamment pour la classe de première S, dans le but de redonner du sens aux mathématiques enseignées à travers des questions de société, des problèmes qui se sont posés ou qui se posent. On avait travaillé un petit peu sur les raccordements de voies de circulation. Finalement, cette conférence, c'était l'occasion d'aller voir un petit peu l'aspect historique, finalement, de ce qu'on avait travaillé d'un point de vue plus mathématique. Donc, j'y ai aussi découvert, appris plein de choses sur ce qu'on avait un petit peu commencé à travailler à l'IREM. Alors, les réseaux routiers et ferroviaires français, donc du 19e siècle au 21e siècle, des mathématiques pour le confort de l'usager. Je vais commencer par un petit état des lieux, justement, avant le 19e siècle, comprendre comment était l'état du réseau routier et puis quelles mathématiques on pouvait utiliser. On va voir qu'il y avait en fait très très peu de mathématiques avant ce 19e siècle. Ensuite, quelques grands savants, mathématiciens, ingénieurs, qui vont vraiment jouer un rôle important dans le fait que les mathématiques vont commencer à apparaître comme un élément de réponse à pas mal de questions qui se posent dans les domaines dont on a besoin pour construire construire ces réseaux routiers, les entretenir. Et puis enfin, je reviendrai sur quelques exemples d'utilisation de ces mathématiques. Ça ne sera pas exhaustif parce qu'évidemment, à l'intérieur, il y a plein de petits domaines dans lesquels on retrouve des mathématiques. Alors, donc, pour cet état des lieux avant le 19e siècle, donc, tout d'abord, qu'est-ce qui est important dans le réseau routier ? Au niveau des chemins, c'est essentiellement leur largeur. Alors, on va trouver un petit peu de mathématiques dans les dimensions qu'on va donner à ces chemins. En 1283, on recense 5 types de chemins et ça va faire référence pendant plusieurs siècles. Ils sont classés selon leur largeur. Donc les sentiers de 4 pieds de large, ça fait à peu près 1,20 m. Les carriérés de 8 pieds de large, puis des chemins de 16 pieds de large, 32, 64. Donc 64 pieds, c'est les chemins de César qui relient les plus grandes villes de France, les villes les plus importantes. Ça fait une 20aine de mètres de large, donc un petit peu comme nos autoroutes, un petit peu moins, mais sur les routes à deux voies, disons. Alors, reverdi dans l'histoire des routes de France du Moyen-Âge à la Révolution, on remarque qu'on a des dimensions en progression géométrique. Donc on a une espèce de théorie derrière ça, mais qui finalement n'a pas vraiment un grand fondement mathématique. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait du chemin, et la largeur, en fait, détermine ce qu'on va en faire. Donc sur le sentier 4 pieds de large, on fait passer exclusivement des gens à pied. Sur les carriérés, on commence à pouvoir faire passer un petit peu des charrettes, mais l'une après l'autre, elles ne peuvent pas se croiser. 16 pieds ensuite, c'est l'idée d'avoir les 8 pieds au milieu pour faire passer une charrette et puis 4 pieds de chaque côté pour garder une circulation à pied de part et d'autre, éventuellement à cheval aussi. 32 pieds pour pouvoir commencer à faire croiser des charrettes, faire circuler du bétail sans forcément qu'il puisse stationner. Et puis après, sur les routes à 64 pieds, là on a vraiment une circulation importante, on peut faire croiser des animaux, des charrettes, des gens à pied, des chevaux, un petit peu de tout, et surtout pour l'accès aux grandes villes, finalement. On aura cette largeur des chemins va être remise en cause en 1776 par l'arrêt Turgot, qui va définir de nouvelles largeurs, 24 pieds, 30 pieds, 36 pieds, 42 pieds, alors définis aussi par les types de villes, l'importance des villes que les chemins vont relier. Alors, on peut s'amuser que d'un point de vue mathématique, on a finalement changé une suite géométrique, on multipliait par 2 la longueur des chemins par une suite arithmétique, où maintenant on ajoute 6 pieds à chaque fois cette largeur des chemins. Bon, là encore, il n'y a pas un fondement théorique en particulier à ces choix. Ce qui était surtout important pour Turgot, c'était de limiter la dimension des grandes routes, limiter ces grandes routes qui faisaient avant 64 pieds de large, avec l'idée que moins elles vont être larges, moins il va y avoir à entretenir et moins ça va être coûteux pour l'État. L'argent va être souvent derrière un petit peu toute la plupart des décisions qui vont être prises. Donc, On a en plus, en même temps, dans ce même arrêt Turgot, la suppression de la corvée qui imposait régulièrement avoir des personnes qui venaient entretenir ces routes. Et donc cet arrêt de la corvée intervient au même moment où on diminue la largeur des routes pour avoir un petit peu moins à entretenir. Alors justement, quelques décisions sur cet entretien des routes. En fait, l'entretien des routes sera une véritable préoccupation uniquement à partir du règne d'Henri II, où on va trouver là de nombreux textes qui définissent la manière dont les routes doivent être pavées, dont elles doivent être entretenues, à quelle fréquence elles doivent être entretenues. Bon, on trouve quelques textes qui sont antérieurs, vous en avez là des exemples. Donc sous Louis XII, on demande que les trésoriers de France visitent les chemins, les chaussées, les ponts pour indiquer les réparations à faire. François Ier demandera que les recettes des péages, parce que la plupart des routes sont payantes, doivent être utilisées pour les réparations. Donc on a quelques indications éparses, mais on aura une vraie préoccupation essentiellement à partir d'Henri II. Donc là, quelques exemples d'indications. Donc un extrait du traité de la police, c'était pour le pavage de la route Orléans-Paris, où on avait rallongé la route. Donc quelques indications. Donc on a beaucoup d'indications de dimension. Là, sera dressé le chemin de la largeur de 8 toises et demie. Au milieu, dit celui, il y aura 2 toises et demie de largeur qui sera pavée, rehaussée et accommodée comme il se trouvera plus convenable. Et le reste demeurera comme il est, sans que les laboureurs des terres circonvoisines y puissent mettre fumier ou autre chose qui puisse empêcher le chemin. Alors, on va trouver comme ça régulièrement des textes qui définissent comment doivent être traités les chemins. Plus tardivement, bail d'entretien du pavé du Hainaut en 1748. Là, on indique comment faire les réparations sur quel rythme. Donc, on doit relever chaque année le sixième du pavé de pierre parmentée, dont les 2/3 seront fournis à neuf, et le 9e de l'autre pavé en y fournissant un 8e de pavé neuf. Donc, un certain nombre d'indications précises sur la manière d'entretenir. Alors, en fait, cet entretien, ce n'est pas une énorme préoccupation dans le sens où, à cette époque-là, l'usure de la route va pas être importante. Il faut penser que le flux principal, c'est en fait un flux piéton, essentiellement. Quelques cavaliers, notamment les messagers des universités, qui vont aller de grande ville en grande ville, par exemple. Et on aura vraiment un petit peu plus de flux, ensuite de voitures à cheval, hein, évidemment, au départ. À partir... Bon, essentiellement de la création du relais de la poste d'État et des relais de poste, donc fin 15e siècle. Et puis donc petit à petit, après cette poste d'État, on aura d'autres moyens de transport qui vont se développer, les diligences qui utiliseront éventuellement les relais de poste ou d'autres. À la fin du 18e siècle, cette circulation va commencer à devenir un petit peu plus importante, un petit peu plus régulière. Un peu plus rapide aussi, donc là on commencera à avoir vraiment des questions qui vont se poser par rapport à l'usure des pavés notamment et par rapport au confort de la route et à la circulation qu'on peut avoir, mais c'est vrai qu'avant c'était pas une préoccupation finalement majeure. Donc on a notamment donc à la fin du 18e siècle un arrêté, alors je l'ai relevé en plus, c'était notable, il est signé cet arrêté du 20 avril 1783 de Blossac et imprimé à Poitiers, donc très proche de nous. Cet arrêté sur l'entretien des routes et des pavés, bah, finalement, contrairement à quelques autres qu'on a lus avant, il ne va pas définir les pavés à utiliser, la manière d'entretenir, mais il va au contraire essayer d'imposer plutôt une régulation de la circulation. C'est-à-dire que plutôt que d'entretenir les pavés, on va limiter la circulation et le type de circulation dessus. Alors, par exemple, il y a des limitations sur les tailles des roues, alors selon la matière dans laquelle elles sont. Et donc, on va plutôt essayer de prévenir pour ne pas avoir à entretenir et éviter d'user plutôt que de prévoir l'entretien et la manière de construire les routes. Donc, ça veut dire que finalement, quand on arrive au début du 19e siècle, on a un réseau routier qui est quand même dans un état relativement dégradé, avec peu de suivi de l'entretien. La question se pose de ce qu'on va devoir faire. Est-ce qu'on continue à entretenir ? Comment on va l'entretenir ? Ça va être une nouvelle question qui va vraiment se poser. Alors, un dernier petit mot sur cet état des lieux avant le 19e siècle. Donc, par rapport donc à cet entretien dont on hérite, ce manque d'entretien, la forme aussi des routes. La forme des routes, c'est essentiellement des routes droites, le plus possible. La route droite est privilégiée. C'est un héritage déjà des chemins de la Gaule romaine. Le chemin de César, c'était aussi des chemins extrêmement droits. On essaie d'aller le plus droit possible entre les grandes villes. On a là, par exemple, un arrêté du Conseil d'État du roi de mai 1705, donc, qui ordonne que les ouvrages de pavés qui se font de nouveau par les ordres de Sa Majesté et les anciens qui seront relevés seront conduits du plus droit alignement que faire se pourra, suivant qu'il sera ordonné par les trésoriers de France à ceux commis dans la généralité de Paris et par les sieurs commissaires départis dans les autres généralités. Donc la norme, c'est la ligne droite. Ce sera un petit peu remis en question et critiqué. On a un texte de François Pomerol de 1781 qui est intéressant, où François Pomerol défend ces tracés en ligne droite avec un argument en mathématiques qui peut nous intéresser. Les chemins sont tracés suivant des lignes trop droites. Un pareil reproche suppose de l'ignorance ou de la mauvaise foi. C'est un axiome connu des enfants qu'entre deux points, la ligne droite est le plus court chemin. Donc, voilà, on nous cite l'axiome d'Euclide, finalement, comme argument majeur pour finalement justifier ces routes très droites, avec, en fait, quand on lit la suite de la phrase, l'intérêt de Pomerol, c'est parce que ça va donner le moins de frais de construction et d'entretien possible à cause de son raccourcissement. Alors, c'est pas si vrai que ça non plus, parce que quand on fait des routes exclusivement droites entre deux villes, ben, y a quand même le problème d'un certain nombre d'obstacles qu'on va rencontrer, et ça va nécessiter la création de ponts, la création de tunnels, des aménagements qui sont peut-être finalement parfois peut-être aussi coûteux que d'aller faire un détour, mais a priori, la norme était de prendre donc ces chemins le plus droit possible. Donc voilà pour cet état des lieux à l'aube du 19e siècle. Alors, la part de science, en particulier de mathématiques, qui va devenir plus importante au 19e siècle, va être due en grande partie par l'organisation des ingénieurs qui ont en charge ce réseau routier. Cette organisation des ingénieurs, elle va commencer dès 1716 avec la création du corps des ponts et chaussées. Deux ingénieurs de la fin du XVIIIe siècle, Henri Gautier et Pierre-Marie Jérôme Trézaguet, qui vont avoir tous les deux un rôle un petit peu important, notamment parce que ça va être les premiers à écrire des traités sur la construction des routes. Donc le premier traité, c'est le traité de la construction des chemins, donc par Henri Gautier. Il est ingénieur de la province du Languedoc, donc le traité sera édité à Toulouse en 1693, il sera réédité ensuite à Paris en 1721, donc il va durer un certain temps et il va faire référence pendant un certain temps. En fait, dans sa préface, Gautier indique que jusqu'à présent, la plupart des chemins sont construits par expérience, c'est l'usage et l'habitude qui fait qu'on sait comment construire à peu près. Et il va expliquer que lui, il voudrait commencer à mettre des normes et des indications pour qu'effectivement, on puisse construire ces chemins de manière plus régulière en suivant des normes précises. Il explique que ces chemins, au même titre que les constructions architecturales, c'est un type d'architecture. Et pour ce type d'architecture, on doit définir un certain nombre de normes de construction. On aura un autre traité aussi par Pierre-Marie Jérôme Trézaguet. Lui, il est ingénieur dans la généralité de Limoges. Il va travailler, Trézaguet, sur la forme et le revêtement des routes. Les propositions qu'il fait vont avoir une certaine importance et on les trouve. La citation que vous avez là, elle est issue d'un cours de l'école des ponts et chaussées de 1895. Et donc en 1895, on fait encore référence aux apports de Trézaguet pour la construction des routes. Donc il donne des indications pour la fondation, pour l'épaisseur de la chaussée, pour les bordures, sur la manière de recouvrir. Il va étudier notamment la forme. Est-ce qu'on peut se permettre d'avoir des routes plutôt en creux? Si oui, dans quelles conditions? Est-ce qu'il faut avoir des routes plutôt bombées? Quelle longueur de flèche, etc. Et donc, il va étudier tout ça, étudier la manière d'installer aussi les pierres des pavés. Ces travaux, alors, ils vont être quand même très utilisés en France, mais il y a un certain Macadam qui est tout petit peu plus jeune que lui, mais ça va être quelques années après et qui va prendre un petit peu plus d'importance au niveau du revêtement où on va suivre ses instructions. Mais bon, celles de Trézaguet vont être quand même connues en France. Alors, il s'intéresse à la construction des routes et aussi, on va continuer à parler de lui dans ses cours des ponts et chaussées, parce que c'est lui qui a eu pour le premier l'idée d'organiser ensuite ce corps des ponts et chaussées avec différents travaux, et notamment la division des routes en cantons et la création d'un corps des cantonniers qui allait pouvoir prendre en charge l'entretien. C'est son idée première, donc il le disait comme ça, il faudrait avoir un ouvrier qui devrait parcourir le canton toutes les semaines, et plus souvent dans les mauvais temps, et réparer à lui seul les petites dégradations qui auraient pu se former en si peu de temps et en arrêter les progrès. L'idée que si on a des gens qui sont vraiment, qui font vraiment ce travail-là de manière régulière, ben on n'aura pas des grands travaux d'entretien comme on a pu l'emmener dans les siècles avant et ne plus vouloir emmener parce que c'était trop coûteux, c'est essayer de faire un travail régulier. Et donc, effectivement, après ces idées de Trézaguet, on va effectivement organiser le travail donc de ces cantonniers. Ça va être comme ils le disent dans le cours, une sorte de fonction publique. Et donc, on va avoir des ingénieurs des ponts et chaussées, des conducteurs de travaux, et puis les cantonniers qui vont s'occuper des routes au fur et à mesure. Alors, après la création de ce corps des ponts et chaussées, en 1747, on aura la fondation de l'école des ponts et chaussées, fondée donc par Trudaine, qui est un administrateur essentiellement. Le premier directeur de l'école, ça sera Perronnet, il est administrateur aussi, il est ingénieur de la généralité d'Alençon. Et Perronnet, c'est aussi un savant, un homme qui s'intéresse à la science, et il participera notamment à l'écriture de quelques articles de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Donc, on a une organisation au début de l'école, il y a une cinquantaine d'élèves, il n'y a aucun professeur. Il y a un fonctionnement complètement en interne et chacun apprend aux autres en fait les connaissances qu'il a déjà. Et ils travaillent comme ça ensemble et ils vont travailler essentiellement en géométrie, en algèbre, en mécanique, en hydraulique. Donc voilà, toutes les connaissances scientifiques qu'ils peuvent avoir, ils se les apportent entre eux, ils se les enseignent entre eux. Et puis ils participent aussi à des travaux sur le terrain, donc au niveau de tout ce qui va être les différents, la chaussée, les ponts, les réparations et autres, les grandes constructions de l'époque. Alors cette organisation-là va durer quelques années, et puis en 1795, donc à la toute fin du XVIIIe siècle, on va avoir la création de l'école polytechnique par Gaspard Monge, qui en sera le premier responsable. Cette école, au début, elle se veut école à la fois théorique et d'application, et puis très rapidement, des écoles justement comme l'école des ponts et chaussées, et aussi comme l'école des mines, comme l'école du génie de Mézières, vont se présenter comme des écoles privilégiées pour être des écoles d'application de cette école polytechnique. Et donc, vont arriver à partir de cette époque-là à l'école des ponts et chaussées des élèves, des ingénieurs, qui vont être formés avec les connaissances de l'école polytechnique, donc beaucoup de sciences, et notamment beaucoup de nouvelles mathématiques. Donc, par exemple, Gaspard Monge, la géométrie descriptive sur laquelle il travaille, elle va être enseignée quasiment directement aux étudiants de l'école polytechnique, et on va en voir d'autres exemples. Donc, une formation scientifique importante des ingénieurs des ponts et chaussées. Alors, à noter, on y reviendra, avant même la création de l'école, Gaspard Monge il s'est déjà intéressé un petit peu à ce qui touchait au réseau routier, puisqu'il a écrit un mémoire sur les déblais et les remblais. Donc en 1781, on y reviendra un petit peu dans justement les utilisations des mathématiques qu'on va avoir au niveau des réseaux routiers. Alors, quelques ingénieurs célèbres des ponts et chaussées qu'on connaît pas forcément justement parce qu'ils ont été ingénieurs des ponts et chaussées. Cauchy, grand mathématicien, reçu à Polytechnique en 1805, aux Ponts et Chaussées en 1807, il en sortira 3 ans plus tard, en 1810. Il participera à quelques travaux, j'ai noté construction du canal de l'Ourcq, construction du pont de Saint-Cloud, auquel il participera. Et puis ensuite, rapidement, il sera lui-même enseignant à Polytechnique, il y enseigne l'analyse. Il y enseigne l'analyse qu'il fait aussi dans ses recherches, donc des recherches scientifiques très récentes et des connaissances mathématiques de l'époque très, très pointues et théoriques. Un autre ingénieur des ponts et chaussées, Gustave Gaspard de Coriolis, donc connu pour ses travaux sur la force de Coriolis, donc lui aussi il sera élève à Polytechnique en 1808 et aux ponts et chaussées en 1810. À la demande de Cauchy, il va être répétiteur à Polytechnique en 1600, en 1816, pardon, et il donnera aussi ensuite, il reviendra donner des cours à l'école des nationales des ponts et chaussées, donc notamment un cours sur les machines, par exemple. Vous avez là un petit extrait de son début de cours sur les roues hydrauliques. Alors, ces travaux sur les forces, et notamment sur les forces centrifuges, elles vont jouer un rôle important sur la manière d'étudier les mouvements et les trajets sur les routes. Enfin, un dernier exemple, ils sont pas tous, j'ai fait un choix. Un ingénieur des ponts et chaussées, qu'on connaît peut-être un peu moins, Émile Chesson, lui aussi sera polytechnicien en 1854. Et on voit qu'aux ponts et chaussées, il va venir donner des cours, mais il va faire des mathématiques, mais il va faire des mathématiques différentes des deux précédents. Il donne des cours de littérature administrative, il va donner des cours d'économie industrielle à l'école des mines de Paris, il va donner des cours d'économie politique. Donc on a un aspect mathématique différent, beaucoup plus tourné chez son. Ce qui va l'intéresser en partie, c'est les statistiques notamment. Donc ces statistiques mathématiques, il va notamment en faire sur la circulation, sur les routes. Alors, ça fait partie des domaines que j'ai choisis. Donc, quelles mathématiques vont avoir une importance donc, dans cette circulation sur les réseaux routiers? On va avoir donc, ces études statistiques. Donc, on l'a dit tout à l'heure, au début du 19e siècle, le réseau routier est très peu développé, l'entretien était en baisse, donc la suppression des corvées, moins de financement. On aura déjà une enquête dès 1812 où on essaye de faire un point sur l'état du réseau routier. Et puis, il va y avoir aussi le début de la concurrence du rail qui arrive. 1832 pour les premiers essais, 1844 pour les premières circulations de locomotives mécaniques à vapeur. Et l'idée se développe progressivement que peut-être finalement, le réseau routier, il va être plus très utile. Les gens vont utiliser les chemins de fer pour se déplacer. Et donc, ces routes qui sont déjà pas très entretenues, qui sont pas très faciles au niveau de la circulation, c'est pas très confortable de circuler en diligence, ça vaut peut-être pas le coup d'investir de l'argent, puisque si finalement les gens les utilisent plus, tout compte fait, on va peut-être se concentrer sur les chemins de fer. Alors, c'est quelque chose qui tient à cœur à Chesson, qui veut effectivement montrer que ces routes, elles gardent une certaine importance et qu'il ne faut pas les négliger. Alors, on va avoir des recensements statistiques pendant toute la deuxième moitié du 19e siècle. Donc, vous avez les dates. Et Chesson va faire donner des conférences en 1884 et puis 1895, juste après les deux recensements. Et notamment, il va faire paraître ensuite tous les résultats de manière graphique sur des cartes dans l'album de statistiques graphiques dont il est responsable et qu'il a créé, et album de statistiques graphiques qui fait référence au niveau des représentations, du type de représentation qu'on peut donner. C'est vraiment un travail de statistiques important qui sert de référence dans pas mal d'autres domaines. Donc en 84 et en 95, l'album de statistiques graphiques, il contient essentiellement des cartes liées à la circulation, donc sur les routes et sur le rail. Alors, c'est intéressant, donc les interventions qu'il fait donc dans ses conférences pour commenter ces résultats des recensements, il va expliquer donc ce qu'il veut faire de ces statistiques. Donc, le premier but à l'origine, c'est d'avoir suffisamment de données pour voir quel entretien doit faire des routes et pour partager les dotations d'argent en fonction de l'entretien qu'il y a à faire pour améliorer les transports et pour améliorer la qualité de roulage sur ces routes. Et puis on va se rendre compte aussi très rapidement que ces résultats statistiques, ils sont importants pour avoir des données économiques, parce que quand on va pointer la circulation qu'on a sur les routes, on va pointer aussi les marchandises qui transitent, combien transitent, quel type, et donc on va avoir une mesure plus économique de l'utilisation de ces routes et savoir si ces routes ont vraiment un intérêt économique ou pas. Alors, Chesson décrit dans son article, dans les deux, donc celui qui suit chacun des deux recensements, une méthode de comptage. Finalement, comment compter, ça fait partie des premières collectes de résultats statistiques. Donc, qu'est-ce qu'on doit compter? On compte quoi? On le compte où? Et on le compte quand? Qu'est-ce qu'on va avoir dans ce recensement? Alors, on compte quoi ? Ben, la circulation, à l'époque, elle est encore comptée en nombre de colliers. Nombre de colliers, ça correspond au nombre d'animaux de trait qui vont passer en moyenne par jour en un point donné. À partir de ce nombre de colliers, on va pouvoir calculer des tonnages. Donc, selon le type de véhicule, on associe un certain poids et il va présenter un certain nombre de calculs et de formules qui relient le nombre de colliers, le tonnage absolu, le tonnage kilométrique, le tonnage moyen rapporté à la distance entière, et il va pouvoir rapporter ça à Descartes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il présente sur ce comptage du nombre de colliers en 1884 commence à être un petit peu modifié ensuite quand il reprend les éléments en 1895, puisque entre les deux, on va avoir de nouveaux véhicules qui sont apparus. Les tramways, qui au tout début étaient encore tirés par des chevaux, donc finalement on pouvait encore compter les animaux de trait, encore qu'il le remet en cause parce que le tramway avec sa masse, si on tient compte uniquement du nombre de chevaux qu'il tire, l'usure de la route est peut-être pas finalement la même que quand on a une simple charrette ou une simple diligence. On va commencer à avoir quelques automobiles, c'est le tout début, et des bicyclettes. Alors j'ai beaucoup aimé ce qu'il disait des bicyclettes, du coup, dans son article de 1895. Il ne s'agit plus ici de simples piétons dont on pouvait à la rigueur omettre l'action sur les routes, mais de véritables cavaliers à vive allure qui dérangent la prise des matériaux et qui ont pour l'entretien des chaussées des exigences légitimes mais gênantes et coûteuses. Ben oui, c'est que ces bicyclettes, non seulement elles abîment plus que les piétons, mais en plus elles ont besoin d'une route en bon état pour circuler, parce que pour circuler sur des pavés qui se déchaussent ou qui sont abîmés, ben ça devient extrêmement dangereux. Donc non seulement ils abîment plus, mais en plus ils sont exigeants par rapport à la qualité des routes. Alors, on voit dans son article de 1895, ben on commence à avoir un changement donc sur cette histoire de comptage du nombre de colliers. Comment on fait pour les tramways qui commencent à être motorisés? Comment on fait pour les automobiles? Alors, il y a des choix qui sont faits. En 1888, on pèse un petit peu les tramways, les animaux, voir ce que ça donne. Et on estime qu'on va compter. On fait la masse totale du tramway. On divise par 200 kilos. On va dire que ça fait ça le nombre de colliers. Finalement, ils ont trouvé que ça avait été estimé de manière un petit peu légère. Donc, en 1894, on va faire la même chose, mais on va diviser par 1250. Mais c'est fait de manière très empirique, finalement. On fait un certain nombre de pesées. Par rapport à ces pesées, on essaye d'estimer à peu près ce que ça va donner, un équivalent en nombre de colliers. Alors, il remarque d'ailleurs Chesson dans son article à ce moment-là que finalement, ce n'est pas très très grave cette approximation, parce qu'à l'époque, la circulation des automobiles et des tramways, elle représente à peu près 3-4% de la circulation du trafic. Donc finalement, ce n'est pas très grave que la valeur soit approchée. Mais il note en remarque que peut-être à l'avenir, il faudra être un petit peu plus vigilant. Et bah, effectivement, l'histoire lui donnera raison. Et évidemment, on ne compte plus maintenant en nombre de colliers, mais en nombre de véhicules automobiles ou en masse de circulation. Alors, voilà à quoi ressemblait une feuille de pointage. Donc, bah, cette feuille de pointage, c'est les cantonniers qui l'avaient. Et ils devaient cocher le nombre de voitures chargées, le nombre de voitures publiques, le nombre de voitures vides, le nombre d'animaux non attelés et le nombre de menus bétail. Et donc, chaque cantonnier a une feuille et va cocher. Ben, il est en un point donné, il coche tout ce qui va circuler sur la route qu'on lui a demandé de surveiller. On aura ensuite, donc il y a des analyses qui sont faites par catégorie, suivant ces 5 catégories, et puis il y a aussi une analyse qui est faite plus globale en ce qu'on appelle les colliers réduits, où on va tenir compte pour chacun des types de véhicules de l'usure qui va provoquer sur la route. Parce que le premier but, c'était ça, c'était savoir comment entretenir. Et donc, évidemment, une voiture chargée de marchandises ne va pas user la route comme 3 moutons qui seront passés. Donc, les voitures chargées, les voitures publiques vont être comptées dans ces colliers réduits avec un coefficient 1. Les voitures vides seront comptées avec un coefficient 1,5. Les animaux non attelés sont comptés avec un coefficient 1/5 et le menu bétail avec un coefficient 1/30. Et de ça, on fait une mesure de la circulation sur les routes de France en collier réduit. Alors, ces cantonniers donc, qui doivent remplir leurs feuilles, Où est-ce qu'on les met ? Donc là aussi, Chesson s'interroge et détaille un petit peu. Évidemment, on ne peut pas en mettre partout. Il faut essayer de tenir compte des différents embranchements, mais on ne dispose pas ni d'assez de monde ni assez de temps, puis ça coûte de l'argent. Donc on a, en fait, à chaque nouveau recensement, les ingénieurs des ponts et chaussées vont étudier la circulation, étudier les anciennes données et puis faire des choix d'emplacement. Donc il y aura quand même 4344 emplacements en 1882, ça fait une moyenne de 8 km 624 entre chacun. Alors, sachant que, par exemple, en Seine-et-Oise, ils étaient beaucoup plus proches puisqu'il y avait beaucoup plus de routes, de croisements à surveiller, alors que, par exemple, dans les Landes, vous aviez des cantonniers beaucoup plus espacés. En 1894, il y aura 5431 emplacements de choisis. Donc, cette question de où on met les cantonniers, quand est-ce qu'ils font ces relevés ? Il ne faut pas qu'ils les fassent non plus en permanence. Il faut éviter les variations accidentelles. On ne va pas faire des relevés uniquement en hiver, par exemple, quand il gèle, il y aura très peu de circulation. Il faut faire attention aux variations saisonnières. On ne va pas faire les relevés systématiquement les jours de foire, parce que là, évidemment, la circulation est bien plus importante que les autres jours. Donc, les ingénieurs, là aussi, des ponts et chaussées, vont travailler sur le choix et sur la répartition des différentes dates. Donc, le choix qu'ils vont retenir, qui va durer sur toute la période du 19e siècle, à peu de choses près, ça va être de faire des relevés un jour sur 13. Ça leur permet de ne pas toujours tomber sur le même jour de la semaine. Ça leur permet d'avoir des observations réparties sur les différentes saisons. Et puis, ils font aussi quelques observations de nuit, mais là aussi, pas systématiquement, puisque la circulation de nuit est très peu importante. Donc, ils la vérifieront sur 4-5 dates maximum choisies, en gros, à peu près une par saison pour contrôler, et surtout aux abords des grandes villes, puisqu'en pleine campagne, la nuit, il y avait extrêmement peu de circulation. Alors, à partir de tous ces relevés, donc on a un certain nombre de données statistiques et donc qui vont être publiées dans l'album de statistiques graphiques de Chesson. Alors là, vous avez un exemple de carte. Donc là, la carte exprimée en collier réduit de la circulation. Alors, la carte complète fait plus d'un mètre sur un mètre. Hein, c'est assez impressionnant. Tout est imprimé. Les tracés sont extrêmement précis. Je vous ai mis le petit exemple juste de vers chez nous, vous avez Poitiers, Niort, on retrouve les grands axes hein, qu'on connaît, hein, Poitiers-Nord-La Rochelle, Poitiers-Nord-Saint-Jean-d'Angély ensuite, et puis des routes plus petites. Et donc, cette carte-là, elle est établie, donc là, les gens nous disent qu'elle est figurée, donc la circulation est figurée par une bande dont la largeur est proportionnelle au nombre de colliers réduits quotidiens. Donc, d'où un certain nombre de rectangles, si vous les voyez là-bas, je vous montrerai avec la souris, voilà, vous avez des bandes plus larges, des bandes plus fines, donc proportionnellement à la circulation en collier réduit. À partir des colliers réduits, on a aussi des calculs sur les tonnages. Donc, on refait des calculs en fonction du type de véhicule qui est passé. Et donc, vous avez aussi des cartes qui sont données sur là le tonnage, là celle-ci, c'est le tonnage utile moyen ramené à la longueur totale de chaque section de circulation. Et enfin, il y a aussi de nouvelles cartes qui apparaissent. Chesson a écrit un article quelques années avant dans le domaine des statistiques pour faire ce qu'il appelle un cartogramme à teinte dégradée. Donc, à partir des valeurs qu'il a, il va attribuer des couleurs par département en fonction de la circulation en collier réduit par département. Donc, il explique que la moyenne donc, pour la France est de 193 colliers réduits. Donc, on va avoir la zone moyenne qui correspond, donc il prend de 175 à 200, qui va être en blanc. Et puis ensuite, les départements qui vont avoir une circulation plus importante avec des teintes de jaune et des hachures de plus en plus serrées, plus la circulation augmente, et inversement des teintes de rouge avec des de plus en plus serrées quand la circulation diminue. Et donc on obtient ces cartogrammes, comme il les appelle. Il y en a plusieurs dans l'album de statistiques graphiques. Voilà, donc voilà pour ces statistiques qui vont être faites, qui vont commencer au 19e siècle. On fait toujours des statistiques routières, on y reviendra tout à l'heure, faire le lien avec maintenant notre 21e siècle. Donc, ce qui est important dans l'article de Chesson, c'est que donc, Il insiste sur ce lien entre le chemin de fer et les routes en disant que, bah, bien sûr, on a moins d'entretien, bien sûr, les gens vont commencer à utiliser le chemin de fer, mais il ne faut pas pour autant négliger le réseau routier. Et les résultats de cette circulation et de ces recensements lui montrent qu'effectivement, la circulation continue à être quand même importante. Et donc, on a besoin d'avoir des routes entretenues. Et en plus, il remarque que bah, finalement, même s'il y a, si les gens utilisent le chemin de fer, il ne passe pas partout. Et il faut de toute façon pouvoir relier les gares. Donc, il faut que les personnes puissent accéder aux gares. Et on a plein de routes qui vont se développer, qui n'étaient peut-être pas les mêmes que dans les siècles précédents. Mais toutes ces routes transversales qui vont permettre de relier les grandes villes et de relier à ce moment-là les points où on trouve des gares qui vont se développer. Donc ça, il insiste là-dessus, donc sur cette importance de la nécessité de l'entretien. Et notamment avec les nouveaux véhicules, il croit aussi à l'arrivée de l'automobile et au fait que pour faire circuler les automobiles, on va avoir besoin d'avoir des routes davantage entretenues. Donc voilà pour ce premier type de mathématiques qui est utilisé, qui naît au 19e siècle autour de ces problèmes de transport. Le deuxième point sur lequel je vais venir, sur l'utilisation des mathématiques, ça va être les tracés de route. Donc ces tracés de route, on l'a dit tout à l'heure, beaucoup de lignes droites. Les lignes droites sont privilégiées. Et on va avoir le problème, tout d'abord, on va se poser des questions par rapport aux routes de montagne. Puisque en route de montagne, la ligne droite, évidemment, si on veut aller d'un point à un autre et si on suit uniquement en ligne droite, ça va poser forcément des problèmes de circulation, des problèmes de pente. Alors, il y a déjà des normes qui sont données de manière assez expérimentale et l'idée, puisqu'on est encore au tout début, là par exemple sur le traité de Gautier, on est encore au XVIIe siècle, c'est l'idée, il faut qu'un cheval puisse circuler et tirer une charrette ou une diligence en ayant la possibilité de faire des pauses sans reculer et être entraîné par le poids de la charrette et de la diligence. Donc on va limiter les pentes des routes pour les chevaux. Et en limitant la pente des routes, eh ben, il va falloir faire non pas toute une ligne droite continue, mais une ligne brisée, et va se poser la question de comment raccorder ensuite les différents alignements et ces différentes lignes. Donc dans le traité de Gautier, vous avez là ces exemples. Alors le Gautier le décrit de manière très géométrique, entre le point A et le point B, on va avoir telle ligne droite, à tel endroit, il va falloir raccorder, il ne faudra pas tant de pente, etc. Donc on a ces descriptions pour les routes de montagne. On a un exemple très intéressant à côté de Charles-François Exchaquet, qui est un ingénieur cartographe et alpiniste suisse. Il va notamment donc, beaucoup travailler sur les Alpes, sur la cartographie des Alpes. Et là, il propose un plan d'un projet de chemin en montagne. Et donc, on distingue assez clairement donc, les alignements droits. On va en avoir là, on va en avoir un peu là, ici, ici. Et puis, ben, clairement, on voit la manière dont Exchaquet, sur son plan, relie ces alignements droits par des éléments qui s'apparentent à des cercles. Alors, bah, effectivement, ces cercles vont être utilisés, ça va être la première idée pour raccorder et pour faire ces virages. La première idée va être d'utiliser des cercles. Alors, on le voit donc sur son tracé hein, en plus gros, on voit la route, on voit le virage, et puis il y a des petits tracés en pointillés hein, que je repasse. Qui donne le prolongement des alignements. On va avoir l'angle ici qui va pouvoir être connu. On cherche à avoir un cercle qui soit tangent à ces alignements droits et on a besoin en fait, de déterminer le centre après du cercle pour pouvoir faire les tracés. Donc, vous avez à côté un extrait du cours de Durand-Claye, un cours donné à l'école des Ponts et Chaussées en 1895. Où il explique qu'effectivement, donc le tracé le plus simple, le plus rationnel, c'est la ligne droite, mais ce n'est pas toujours possible. Alors, il cite des obstacles, donc notamment comme en montagne. Il cite aussi des choses qui restent toujours d'actualité. On peut éviter de passer sur une maison d'habitation ou un parc d'agrément dont la destruction serait vexatoire et donnerait lieu à d'onéreuses indemnités. Donc c'est une question qui est encore tout à fait d'actualité. Et donc, il explique qu'on va utiliser ce raccordement. Et donc, la fin de la citation, ces courbes de raccordement ordinairement employées sont les arcs de cercle. Donc, on va trouver dans les cours des ponts et chaussées pas mal d'explications mathématiques sur la manière, effectivement, de construire, de trouver donc, le centre du cercle, construire le cercle, Ça sera fait parfois ensuite par un tracé sur carte qu'on reporte sur le terrain, parfois directement par un tracé, un jalonnage, un pointage sur le terrain. Et on voit ben là arriver des formules de trigonométrie, notamment. Donc, les alignements droits de chaque côté, et on veut les rejoindre par l'arc de cercle AB. On peut mesurer l'angle entre les alignements droits, ça on a les outils pour faire ça, et donc on va pouvoir calculer les différentes longueurs, donc là la longueur entre S et B, la longueur entre S et O, là Durand-Claye le calcule en donnant la longueur entre S et M ici, mais après il suffit d'ajouter le rayon, ça pose pas de souci d'un point de vue du calcul. Et donc on a des relations entre l'angle, entre le rayon du cercle dont on veut servir pour accorder, et puis les différentes longueurs de la figure. Alors Durand-Claye explique qu'en général, bah, le rayon, on le donne, on l'impose en fonction des conditions de circulation, et on calcule ensuite les autres éléments. Donc l'angle est mesuré sur le terrain, le rayon est imposé par les conditions de circulation, et on calcule les autres éléments pour pouvoir construire correctement le cercle. Alors plus tardivement, on trouve dans le traité d'Ocagne, aussi sur ces leçons de topométrie et de cubature des terrasses. C'est l'expérience hein, qu'il donne. Sur les routes, l'expérience a prouvé qu'il convenait pour une vitesse de 12 km à l'heure de ne pas descendre en dessous d'un rayon de 30 mètres. Et pour une vitesse de 15 km à l'heure, ce qui est le cas ordinaire, de ne pas descendre en dessous d'un rayon de 50 mètres. Et ben, ce qui va être vraiment nouveau et ce qui va nécessiter la réflexion sur ces virages, c'est les chemins de fer. Sur les chemins de fer, on peut, avec une vitesse de 80 km à 90 km, sous-entendu par heure, passer dans des courbes de 500 mètres de rayon. Ce rayon peut être éventuellement abaissé à 300 mètres, à 250 mètres, suivant les conditions. Alors, d'Ocagne fait référence dans son livre au traité de Brica, qui est un cours sur les chemins de fer, qui est un petit peu antérieur, en 1894, où Brica aussi dit, donc l'expérience montre qu'on peut faire parfaitement circuler à très grande vitesse, donc 80-90 km heure, dans des courbes de 500 mètres de rayon, et même moins. Sans doute, les voyageurs y sont beaucoup moins bien que sur les lignes où les rayons des courbes sont plus grands, à cause du dévers et de la force centrifuge. Mais il n'y a aucun danger pour la circulation, même aux vitesses de 80 à 90 km heure. Donc, c'est amusant sur cette citation parce qu'on commence à parler un peu du confort des voyageurs aussi par rapport à ce qu'ils vont ressentir, ce qui n'est pas forcément encore une préoccupation dans les textes qu'on avait avant. Il faut voir que donc, cette utilisation du chemin de fer a commencé à être vraiment banalisée à partir des années 1850-1860. C'est vraiment rentré dans l'usage. Donc, on a de plus en plus de gens qui circulent. Donc, on va s'intéresser effectivement à leurs conditions de circulation. À vrai dire, au départ, ce n'est pas tellement les à-coups de la route et les problèmes de virage qui vont vraiment être un problème. Il y a déjà beaucoup plus de soucis. Les médecins s'intéressent à ce qu'ils appellent des pathologies ferroviaires. Donc les pathologies ferroviaires, elles sont plus liées à des problèmes de promiscuité, à des problèmes d'aération, de chaleur dans les wagons, plus à la rigueur que de sentir les à-coups de la route et les à-coups des virages. On a notamment des nouvelles maladies qui arrivent à cause des changements de température et de climat d'un point à un autre. Avant, on n'allait pas si rapidement d'un point de la France à un autre. Et donc, on peut changer de climat en un voyage. Et donc, les gens tombent malades parce qu'ils ne s'habituent pas. Donc, voilà. Finalement, on s'intéresse beaucoup à cet aspect-là pour les voyageurs. Et finalement, le ressenti du rayon de courbure est un point après parmi d'autres à ce moment-là. Alors c'est un point parmi d'autres, mais quand même, bah, si on abuse, il peut être source de déraillement des trains, et notamment bah, plus la vitesse va augmenter et plus ça va être vraiment un questionnement que les ingénieurs des ponts et chaussées, des chemins de fer vont alors se poser forcément. Alors juste pour... Sur le plan d'Exchaquer, on avait aussi sur l'autre endroit un raccordement qui paraissait circulaire. Alors si on y regarde de près, il y a même plusieurs cercles en fait qui vont successivement avec plusieurs rayons et plusieurs centres. Alors ça sera aussi étudié. On trouve des études géométriques dans les cours des ponts et chaussées. C'est utilisé, mais finalement on voit que d'Ocagne, par exemple, va critiquer un petit peu l'inconvénient. On l'a vu par rapport au type de rayon qui était demandé au rayon minimum qu'on a posé selon la vitesse, bah le problème, c'est que quand on construit géométriquement différents cercles qui se raccordent, il arrive assez souvent qu'ensuite, le plus petit de ces cercles a un rayon qui devient vraiment trop petit et qui va être en deçà des limites raisonnables pour faire les virages. Donc finalement, ce n'est pas ce qui sera forcément le plus utilisé. Alors, les études pour les problèmes liés à la vitesse et au chemin de fer, bah justement, vont être menées donc à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle. C'est un extrait de Dokang, donc toujours ses leçons sur la topométrie et la cubature des terrasses. Et donc, on y va expliquer que bah, finalement, dans le cas d'une route, il n'y a pas d'inconvénient majeur à raccorder directement un cercle avec un alignement droit, mais il n'en va pas de même pour une voie ferrée où la grandeur de la vitesse rend non négligeable la considération de la force centrifuge. Mais il met quand même une petite note de bas de page, Dokang, lui aussi un petit peu comme Chesson, il prend des précautions. Et encore, le développement de l'automobilisme pourrait-il bien à l'avenir rendre utile l'adoption pour les routes d'une solution analogue à celle développée ici en vue des voies ferrées? Et effectivement, là aussi, l'avenir lui donnera raison. Alors, il va faire un certain nombre de calculs. Je n'ai pas mis le détail, s'il y en a qui veulent y revenir après pendant les questions, voir un peu comment il fait ça. Il va exprimer le dévers de la route, il va exprimer la pente de la route, on va avoir un certain nombre d'angles, des angles qui doivent être les mêmes. Bon, à partir des égalités, il va arriver à exprimer les coordonnées de points de la courbe que doit suivre du coup le virage. Et ben, quand on trouve et quand on fait ces calculs, on reconnaît une courbe qui a déjà été étudiée par les mathématiciens. Elle a été introduite par Cornu et c'est ce qu'on appelle alors, parfois la spirale de Cornu ou aussi la clotoïde qui va être utilisée. Et donc là, Dokang en trace un exemple dans son livre. Alors l'idée, c'est d'avoir du coup un alignement, une droite, un morceau de clotoïde, ce qui va permettre de faire passer d'un rayon de courbure infini à un rayon de courbure fini de manière douce, et ensuite on raccorde avec un cercle qui a un rayon de courbure fini. Donc cette clotoïde, on va en utiliser, alors en fait on ne l'utilise pas tout entière, généralement on utilise un tout petit morceau, ou une de ces approximations, on va utiliser grosso modo la partie qui est là. Alors, peut-être je peux ouvrir quand même. Si, c'est lancé, c'est juste que c'est pas rapide. Donc on va l'utiliser sur une petite portion, cette clotoïde, et donc parfois on lui préfère des approximations donc avec la parabole cubique ou même la lémnisquette de Bernoulli. Dokang le développe dans son livre, il développe les calculs. Alors on les obtient ces approximations, alors soit par des calculs mathématiques, des approximations vraiment mathématiques. Par exemple, pour obtenir la parabole cubique, bah, il suffit de faire un développement limité des sinus et cosinus qu'on avait dans l'intégrale, puis on arrive à trouver l'équation de la parabole cubique. Mais on peut le justifier aussi avec des approximations physiques, et notamment c'est d'approcher l'abscisse curviligne de la courbe, soit de l'approcher par le rayon vecteur, soit de l'approcher par l'abscisse, comme on est sur une partie... Il faut que je la déplace un petit peu pour que vous la voyez. Bon, que ce côté-là, on en verra assez de toute façon. Voilà, comme on l'utilise sur cette partie-là, hein, simplement, ben on va avoir qu'on regarde l'abscisse curviligne le long de la courbe ou l'abscisse, hein, le long de l'axe des abscisses, ou le rayon vecteur qui joint l'origine au point de la courbe. On a des éléments qui sont très très proches les uns des autres. Donc en faisant les approximations, ben on arrive à tomber sur l'une ou l'autre des équations. Donc, hop, la clotoïde toute seule. Voilà, on l'a là, et donc si on trace la parabole cubique qui l'approche, ben voilà, on voit que les deux courbes sont quasiment confondues sur toute cette partie-là, donc on va l'utiliser assez fréquemment. Et quant à la lémniscate de Bernoulli, elle approche la clotoïde hein, sur une bonne part. Hein. Jusqu'ici, on a vraiment des courbes très très proches l'une de l'autre. Alors on trouve des traces comme quoi effectivement les trois ont été réellement utilisées là dans un article du XXe siècle maintenant de Paul Appel en 1921. Donc Paul Appel va étudier ces courbes de raccordement, étudier le lien avec l'élastique plane. Donc lui il s'intéresse à des calculs d'intégrale, il s'agit de minimiser l'intégrale de ds sur rho 2. Ds c'est un élément d'arc et puis rho c'est le rayon de courbure qui correspond à cet élément. Bon, passons sur la partie de ses calculs à lui. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a un dernier paragraphe à la fin de son article où il cite plein de choses qui ont été faites avant lui. Et donc, effectivement, il va citer Norning en 1867 qui utilise la parabole cubique. Il va citer Tourté en 1883 qui utilise la clotoïde. Bourlet, dans le traité des bicycles et bicyclettes, il va notamment étudier la forme des vélodromes, forme qu'il va falloir donner aux vélodromes pour les courses de vélo. Donc il va utiliser aussi Bourlet la clotoïde. Donc Daucagne développe la clotoïde, la parabole cubique, la lemniscate, et même il va traiter aussi d'élastique plane dans des versions postérieures de ses leçons de topométrie. Donc Paul Adam, 1795, préconise aussi l'emploi de la lemniscate. Donc voilà, suivant les auteurs, on trouve vraiment les trois courbes, les trois sont utilisés, et les trois ont des justifications par des calculs mathématiques et des interprétations physiques de ces calculs mathématiques. Alors enfin, dernier point sur lequel je voulais revenir, sur les mathématiques qui sont utilisées dans ce domaine de la circulation et des routes, pour le confort des voyageurs, les remblais et les déblais. Donc les remblais et les déblais pour essayer d'avoir une route le plus droite possible. Durand-Claye indique que c'est sur le profil en travers de ces routes qu'on va marquer ces remblais et ces déblais. On va essayer de voir si le terrain, comment penche le terrain par rapport à l'horizontale, savoir s'il y a des parties où il faut enlever de la terre, des parties où il faut en remettre. Ça nécessite un certain nombre de calculs de volume. Il y a des normes qui sont données donc pour les projets qui sont proposés par les ingénieurs des ponts et chaussées. Donc, par exemple, Durand-Claye, dans son cours, indique qu'il faudra teinter en jaune les surfaces de déblais, en rose pâle celles de remblais. On passe ensuite à la ligne du terrain à l'encre noire. Donc, tout est codifié et donc on a besoin de calculer ensuite. Alors là, c'est un petit peu petit sur celui-là, on doit le voir mieux sur une autre image après. On a cette route à l'horizontale et on voit, suivant les endroits, là où il y en a en trop, là où il faut combler, au contraire, pour arriver à retrouver l'équilibre de la route. Donc, Durand-Claye fait des calculs de ces volumes de terrassement nécessaires en faisant des approximations par des polyèdres de ces volumes. Donc là, il aurait un morceau de profil de route, donc de chaque côté, EF, GH ici et ABCD qui sont les deux profils. Et puis la route, elle doit passer en fait ici sur AB, FE à l'horizontale. Et donc il va essayer de faire des calculs de volume sur ces polyèdres pour voir donc les remblais qu'on sait dans un sens ou les déblais suivant dans quel sens on est. Alors on voit juste, il utilise de la géométrie projective, des dessins. Il va décomposer son polyèdre en différents. Et il explique que la formule exacte qu'on peut donc utiliser, c'est que le volume, ça va être la moitié de l'aire de ABCD fois A plus B plus C sur 3, plus la même chose avec les points BCD, plus même chose avec les points CD et A, plus les mêmes choses avec les points DA et B. Il indiquera ensuite quelques moyens de faire des calculs approchés de ces valeurs-là, pour pas forcément toujours utiliser cette formule, mais il l'établit complètement dans son cours des ponts et chaussées. Un petit peu plus tard, donc on revient, c'est toujours le livre de Daucagne, donc voilà, là on voit bien le niveau de la route. Donc quand c'est en remblai, on veut le passage de la route à B bien horizontal, donc on va être obligé de remblayer pour faire la route. Là au contraire, il propose un déblai, et puis parfois évidemment il y a des situations mixtes. Donc Daucagne propose ce calcul de volume par du calcul d'intégrale. On a un élément de volume dV qui s'exprime comme étant RDL, et du coup le volume total de déblai ou de remblai s'exprimera au moyen de l'intégrale de cet élément de volume. Il va faire aussi des approximations, donc vu en coupe par des polygones, pour faire ces calculs d'air et puis ensuite les calculs de volume qui correspondent. Donc, pour la partie de ce premier problème autour des remblais et des blés du calcul des volumes. Et l'autre question qui va se poser, c'est la question du transport de ces volumes. Il ne s'agit pas seulement de savoir combien il faut en enlever, combien il faut en mettre, il s'agit de savoir comment les transporter, puis si possible optimiser ce qu'on va enlever d'un côté, pouvoir le remettre de l'autre, voir comment on étudie ça. Et donc, si vous vous souvenez, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est Gaspard Monge qui avait écrit un premier traité sur ces remblais, ce transport des remblais et des déblais, avant même de commencer ses cours à l'école polytechnique, à s'intéresser à l'école des ponts et chaussées ensuite derrière. Il a déjà travaillé là-dessus. Charles Dupin reprendra ses travaux et rendra hommage au travail de Monge. Ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, Monge s'intéresse à ce problème-là et il ne va finalement jamais donner de réponse au problème pratique lui-même. Par contre, il va développer énormément de mathématiques à partir de ce problème-là. C'est là qu'il va s'intéresser au problème de courbure, courbure des surfaces. On va avoir plein d'éléments mathématiques développés. Par contre, il n'y aura jamais de réponse définitive au problème pratique sur le terrain, sur comment on fait ensuite. Alors, il le détaille bien, il le fait en présentant donc, ce mémoire sur la théorie des déblais et des remblais, juste son introduction. Lorsqu'on doit transporter des terres d'un lieu dans un autre, on a coutume de donner le nom de déblais au volume des terres qu'on doit transporter, le nom de déblais à l'espace qu'elles doivent occuper après le transport. Le prix du transport d'une molécule étant toute chose d'ailleurs égale proportionnelle à son poids et à l'espace qu'on lui fait parcourir, et par conséquent le prix du transport total devant être proportionnel à la somme des produits des molécules multipliées chacune par l'espace parcouru, il s'ensuit que le déblai et le remblai étant donnés de figure et de position, il n'est pas indifférent que telle molécule du déblai soit transportée dans tel ou tel autre endroit du remblai. Alors il va étudier ces différents transports. Donc, il n'y aura pas de réponse définitive. Le problème va un petit peu être laissé de côté un certain temps. Et Paul Appel, dans un article, donc le problème géométrique des déblais et des remblais, qui reprend en 1928, indique qu'en fait, il n'y a pas de géomètre qui s'est intéressé à la question jusqu'en 1884. Et en 1884, par contre, c'est l'Académie des sciences qui va relancer la question en la proposant comme sujet de concours pour le prix Bordin. Et c'est justement, Paul Appel va se partager avec un autre mathématicien le prix. Paul Appel aura les deux tiers du prix et un autre mathématicien le tiers. En fait, eux aussi, ils développent des mathématiques, ils répondent partiellement à la question, mais en fait, il n'y a toujours pas de réponse définitive, finalement, en 1884. En 1928, il va reprendre, du coup, dans ce texte-là, ses travaux de 1884, plus quelques ajouts qu'il a empruntés à un autre mathématicien, Albert de Saint-Germain, qui était en concurrence pour le prix Bordin, mais qui, lui, n'a pas eu de prix du tout, mais il va quand même, du coup, appel en 1928, réutiliser un petit peu les travaux des deux pour écrire ce texte-là, sachant qu'il ne résout pas non plus encore complètement ce problème. Voilà, alors évidemment, ce n'est pas du tout exhaustif, il y a d'autres mathématiques, donc il y a toute la partie économie que je n'ai pas évoquée, mais qui sent à travers tous les calculs et l'argent qui est en jeu derrière aussi tout ça. Il y a des questions donc sur les représentations, sur les cartes, c'est là aussi on va avoir beaucoup besoin par exemple des cartes de niveau pour pouvoir établir les tracés de route en montagne. Donc voilà, il y a énormément d'autres points mathématiques qui sont nécessaires et que je n'ai pas détaillé là. Alors, en guise de première petite conclusion, voir maintenant, actuellement, finalement, on en est où tout ça ? Ces problématiques qui sont posées au XIXe siècle et puis ces outils mathématiques qui ont été développés, on voit que finalement, même si évidemment le monde a évolué, les véhicules ont évolué, les outils techniques ont évolué, les problématiques, elles sont encore très présentes et quasiment sous la même forme. Là, par exemple, vous avez un texte paru dans la revue de statistiques appliquées en 1985 sur les problèmes d'analyse statistique des transports sur les routes de France. Et cette demande de statistiques, elle a été faite par le ministère des Transports. Le but, c'était d'avoir une évaluation du trafic sur les différentes routes. Il y a des routes pour lesquelles on a des compteurs permanents, d'autres non. Donc va se poser, comme pour Chesson, la question de où est-ce qu'on met les compteurs non permanents, quand est-ce qu'on compte, à quel moment, quel véhicule on compte. Donc les questions restent les mêmes. Le vocabulaire a changé. Là, Patrick Le Breton, donc l'auteur de l'article, parle de stratification pour établir donc le sondage finalement sur le recensement qu'on va faire de la circulation. Il explique qu'il va falloir prendre des jours en hiver, en été, aux différentes saisons, qu'il va falloir que ce ne soient pas toujours les mêmes jours de la semaine. Et autres. Donc, on est sur le même type de problématique pour l'établissement des statistiques. On établit à partir de là des cartes. Est-ce qu'elle s'ouvre rapidement ? Alors, évidemment, par rapport à l'album de statistiques graphiques de Chesson, on a des cartes maintenant. Ça, c'est la carte de la circulation en Gironde. Bon, vous en voyez qu'une toute petite partie, mais voilà, c'est pour voir un petit peu comment ça fonctionne. On va avoir des routes qui vont être codées par différentes couleurs, différentes épaisseurs, selon la circulation. Et donc, bah là, ensuite, c'est interactif. On peut enlever ou mettre, pouvoir ne visualiser voilà, que les routes où on a une circulation là, de 2000 à 15 000 ou plus de 15 000, où on peut faire apparaître les routes avec moins de circulation ou autre. Mais finalement, l'idée de la représentation graphique des résultats du recensement est du même ordre que ce qu'on va trouver dans l'album de statistiques graphiques. Le comptage se fait, par contre, évidemment, il n'y a plus de comptonnier avec la petite fiche qui pointe au bord des routes. Donc, on a des appareils électroniques, donc des appareils fixes qui, par endroit, qui font des relevés. Donc là, ben voilà, plus de relevés de colliers ou de colliers réduits. On relève, par exemple, la longueur des véhicules en fonction de ce qui est capté au moment des passages. Et donc, c'est comme ça qu'on va avoir la répartition des diverses catégories de véhicules qui vont circuler. On voit sur l'exemple qui est donné, évidemment, une très très forte circulation de la catégorie 2, donc des voitures et toutes petites camionnettes, et puis bien moindre ensuite des autres catégories. On a des compteurs, on en voit assez régulièrement sur nos routes, là, les petits boîtiers sur le côté de la route avec les fils qui traversent et qui vont compter ces voitures. Donc on a changé le moyen de comptage, mais on a toujours cette même problématique. Sur les tracés de route, un document du service d'études techniques des routes et des autoroutes de janvier 2006 qui nous parle, comme d'Ocagne au début du siècle ou comme Durenclay, de ces raccordements progressifs. On a les alignements droits, on a des virages circulaires et entre les deux, bah, pour raccorder de manière progressive les deux, on va utiliser des clotoïdes. Et donc, suivant les dimensions, la vitesse et autres, on va utiliser telle ou telle longueur de clotoïdes. On a pour les virages, à nouveau, des choix de rayons. On disait, comme d'Ocagne donnait, hein, à telle vitesse, on va utiliser plutôt tel rayon pour le cercle, telle autre vitesse, tel rayon. Ben là, de même, on trouve dans ce document de la CETRA des tableaux qui vont nous donner, en fonction de la vitesse de circulation sur la route, en fonction du dévers aussi de la route, quels sont les rayons qu'on va pouvoir mettre pour les virages. Alors, sachant qu'il y a un rayon avec un seuil de confort, que ce soit confortable pour l'usager de pouvoir tourner correctement, tourner le volant à angle constant sans avoir d'à-coup à donner. Et puis une valeur du rayon limite en dessous duquel, là, on ne serait plus en sécurité. Et enfin, sur les calculs de déblé, de remblé, des calculs aussi d'approximation avec ce qui est utilisé, ce qu'on appelle dans la technique des épures de Lalanne, qui sont utilisées pour calculer les différents volumes de terre à déplacer. Donc ça, c'est pour l'utilisation donc de ces mathématiques qui sont créées au XIXe siècle autour de ces problèmes qui restent d'actualité. Et puis dans l'autre sens aussi, puisque si les transports et les questions sur les routes, la circulation routière, le tracé des routes utilisent toujours ces mêmes mathématiques, bah de même, ce fameux problème des remblais et des déblais posé par Monge, en fait, il n'a toujours pas de réponse. Et c'est une question encore cruciale d'un point de vue mathématique et qui est toujours étudiée. Donc, par exemple, il y a eu des démonstrations sur le fait déjà qu'il existe un transport optimal, parce que Monge se plaçait dans le cas où il estimait qu'il y avait un transport optimal, il essayait de le trouver. Donc, il y a eu des démonstrations en 1979, 1999. On a remarqué que celle de 1979 était fausse. Donc, on a une nouvelle preuve en 2003. Donc, c'est des recherches mathématiques très, très récentes. Et le problème n'est pas complètement résolu. Donc, c'est Étienne Gis qui en parle donc, dans un article sur le site Images des maths du CNRS. Je le cite. « Le problème n'est toujours pas résolu aujourd'hui en dépit d'une abondante littérature. Prenez par exemple un carré d'un mètre de côté dans le plan et un autre d'un mètre de côté également, mais situé à 3 ou 4 mètres de là, orienté dans une direction différente. Quel est le transport optimal ? Le croirez-vous ? L'un des meilleurs spécialistes du sujet m'a répondu : ne pose pas de questions trop compliquées, s'il te plaît. Donc ça reste un problème toujours mathématique, toujours d'actualité. Donc, en conclusion finale de tout ça, je voudrais relever cette importance que les mathématiques prennent pour répondre à des questions du monde. Donc là, c'est la question des transports, la question du tracé des routes, cette question des statistiques, mais de manière générale, comprendre que les mathématiques, elles répondent à des questions qui se posent, qui se sont posées dans le passé, qui se posent encore actuellement. Cet apport, il se fait dans les deux sens, c'est-à-dire que les mathématiques vont répondre à des questions sur les transports pour que ça puisse être appliqué dans la pratique, les tracés de route, les clotoïdes, les virages circulaires qui sont réellement utilisés. Et puis, ces questionnements qui sont posés par les situations sur le terrain nourrissent aussi dans l'autre sens, les mathématiques, la recherche, et on a abouti à plein d'autres notions que celles dont on pouvait avoir au tout début, et ça reste vrai encore. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est important d'avoir en tête, surtout pour ceux d'entre nous qui enseignent les mathématiques, c'est quelque chose d'important, je crois, à faire sentir, à mon sens, à faire sentir aux élèves ce lien que peuvent avoir les mathématiques avec les questions du monde, les questions qui se posent, et cet aller-retour entre les deux, l'aide ne se fait pas en sens unique, mais c'est bien un aller-retour dans le questionnement. Voilà.
Merci donc Madame Cheval-Arias, vous avez parfaitement répondu à la commande qui en fait part du dispositif Semaine des mathématiques qui vise à donner une autre image des mathématiques plus vivante, plus ancrée dans la réalité, qui parle davantage au public en général. Et dans ce brillant exposé que vous avez fait, on a vu effectivement des notions mathématiques, et des notions mathématiques d'ailleurs depuis le collège jusqu'à l'université, on va dire. C'était très savoureux à un moment, une histoire de fraction. Je pense qu'on peut poser ce petit, on peut oui. extraire ce petit texte et le mettre en classe de collège, et je crois qu'on a de quoi s'amuser pendant un bon petit moment.
Les pavés à reprendre au 9e.
Voilà, exactement. Oui, donc vraiment, c'est ce principe qu'on voudrait de plus en plus voir envahir l'enseignement des mathématiques, si je puis dire, montrer que les mathématiques, ce sont effectivement des questions présentes dans la vie quotidienne à tout moment, et que d'ailleurs, il y a aussi des questions mathématiques qu'on ne sait toujours pas résoudre, vous l'avez dit. C'est cette image effectivement des mathématiques vivantes et concrètes et réelles qu'on essaye de développer de plus en plus aujourd'hui, notamment autour de cette compétence de modélisation. Et vous avez parlé de la modélisation, c'est ce dialogue qui existe entre les mathématiques et puis soit les autres sciences, soit les problèmes quotidiens. Ce dialogue, parce que comme vous l'avez très justement fait remarquer, c'est un aller-retour. Oui. Et à chaque fois, la modélisation, c'est aussi faire le choix de prendre en compte certains paramètres, d'en négliger d'autres et de justifier pourquoi on fait ces choix à ce moment-là. Je crois que c'est tout cet esprit-là qu'il faut essayer de faire comprendre à nos élèves si on veut redonner un petit peu de vie, de lustre et de plaisir aussi aux mathématiques. Oui. Merci beaucoup, et je pense qu'on pourra essayer d'exploiter ce brillant travail d'un point de vue pédagogique.
Merci.
Tu as bien présenté le problème du passage de la ligne droite au cercle par l'intermédiaire soit de la clotoïde, soit de la lémiscate, etc., pour permettre la transition. Mais je me posais le problème aussi de la transition dans le sens, non pas dans le sens longitudinal de la route, mais dans le sens perpendiculaire, avec le dévers. On va passer d'un dévers nul à un dévers relativement élevé dans un grand virage, par exemple. Il y a bien aussi un problème de transition.
On en tient compte dans le calcul, ils en tiennent compte. Et donc justement, ce qui est à ce moment-là vraiment l'idéal, c'est effectivement la clotoïde. Dans les calculs qu'on a sur la clotoïde...
Oui, mais c'est un problème de dimension 3, on n'est plus en dimension 2, là, puisqu'il s'agit...
Oui, mais tu l'as, alors attends que je retrouve... où est-ce que j'ai mis... Voilà, c'est sur ces calculs-là, où effectivement, donc, quand tu vas chercher... à approcher, à tenir compte justement de ce dévers. Donc ça, c'est les calculs d'Ocagne que j'ai repris, que j'ai remis en, simplement par rapport à une présentation peut-être plus actuelle, encore que c'est relativement lisible dans d'Ocagne. Donc il va utiliser donc, des liens entre la force centrifuge, donc le poids, l'angle qui est ici, qui doit correspondre à l'angle du dévers, donc dans ce sens-là de la route. Et ensuite, pour arriver à écrire ces équations, il tient compte aussi après de la pente de la route, du coup dans l'autre sens, pente qui prend au milieu de l'axe de la voiture. Et c'est justement donc, les deux calculs, en regardant donc, dans ce sens-là et dans ce sens-là, si je puis dire, va lui permettre d'exprimer donc, cette hauteur H, hein, donc de... qui correspondent voilà, à la hauteur du dévers. Alors, précisément, ce qu'il appelle le dévers, c'est le rapport entre H et E, mais bon, voilà, ça correspond à cette dimension-là. Et en l'exprimant de deux manières différentes, donc dans les deux plans, c'est ça qui lui permet d'aboutir du coup aux équations où donc il a le rayon de courbure inversement proportionnel à l'abscisse curviligne et qui lui donne après en intérêt grand l'équation de la clotoïde. Donc il tient bien compte effectivement des deux sens. Bien sûr. Et ça lui permet d'avoir un raccordement et du dévers et du virage de manière progressive. Ça permet de raccorder les deux.
Je vous donne le micro, monsieur.
Merci. Je ne connaissais pas le terme de... parabole cubique, c'est une cubique. Moi, je suis de l'ancien
Alors,
temps.
Alors, sur les textes de l'époque, ils parlent de parabole cubique, la plupart du temps. Nous, on dit maintenant, effectivement, dans les textes modernes, on dit plutôt cubique. Et moi, lu, quand on avait travaillé par rapport, nous, en première S, à l'IREM, on avait la clotoïde approximée par une cubique. Et là, ils utilisent le terme de parabole cubique dans ces textes-là.
Oui. Je me suis demandé ce que c'est. En voyant la courbe, je me disais, bon...
Mais ah oui, non, et puis oui, non, mais clairement, l'équation... s'il faut mieux que j'aille vers là, je pense qu'on a la... Voilà, c'est un, hop là, où est-ce qu'elle est ? C'est du y égale x3 sur une constante. Donc non, c'est bien ça. Mais oui, on trouve le terme de parabole cubique pour la désigner à ce moment-là. J'ai été surprise aussi. Oui. Donc j'ai repris la terminologie telle qu'elle était. À d'autres questions.
Par rapport à cette question, c'est une terminologie qui date au moins du XVIe siècle, parce que finalement, dans la mesure où on n'a que, on va dire, le premier cadran, tout ça ressemble à des paraboles. C'est la fonction x, c'est la fonction x donne x puissance n. Et donc, finalement, tous les auteurs, si on reprend le Marquis de l'Hôpital, dans le calcul différentiel et tout ça, tous les auteurs appelaient ça des paraboles. On disait des paraboles, mais puissance 3, puissance 4, puissance n. Et je pense que c'est dû au fait qu'elles avaient toutes la même forme.
C'est un terme nouveau.
Non, c'est un terme très ancien,
non, justement.
qui est gardé, que nous, on a éliminé.
D'Ocagne utilise le terme de parabole cubique et là on voit Paul Appel en 1921 utilise ce terme-là. On trouve juste cubique dans des textes plus récents finalement.
Bon, je pense qu'il n'y a plus d'autres questions, donc merci au public et puis merci encore à Madame Cheval-Arias pour sa intervention. Bonne fin de soirée à tous.